France Musique.
Émilie Munera, les grands entretiens. France Musique.
Je suis Alexandre Tarot, pianiste, insomniaque. Et je n'ai pas d'âge.
Bonjour Alexandre Tarot.
Bonjour.
On est chez vous, dans votre appartement, en plein cœur de Paris. Vous êtes un vrai Parisien, vous êtes né à Paris, vous avez toujours vécu à Paris ?
Oui, j'ai toujours vécu à Paris. Je suis né Villa Malesherbes, dans le haut du 9e arrondissement, vers la rue des Martyrs. Voilà, dans une petite clinique, et j'ai vécu là les toutes premières années. Je n'ai jamais voulu m'installer à l'étranger. Maintenant, oui, mais pas pendant mes études, par exemple. J'aurais très bien pu aller à la Juilliard School ou au conservatoire de Moscou. Non, j'avais peur du voyage, j'avais peur de parler une langue étrangère, j'avais peur du lointain. Voilà, depuis, je voyage beaucoup, mais je ne vois pas grand-chose du monde, parce que la vie de soliste ne permet pas de découvrir profondément les autres peuples et les autres pays. Mais je suis toujours en mouvement. Alors mon ancrage, c'est ici, c'est à Paris depuis ma naissance.
D'où vient votre famille, d'où viennent vos ancêtres, Alexandre Tarot ?
Alors là, j'ai voulu prendre une photo. Je ne vous ai pas dit ce que c'était, mais
non,
en fait,
la découvre avec
quand on rentre dans cet appartement, on ne peut pas imaginer que c'est l'appartement d'un musicien. Parce que, comme vous le voyez, enfin, vous n'avez pas vu toutes les pièces, mais il n'y a pas de musique.
Il y a une petite guitare quand même derrière ? Enfin, ce n'est pas une guitare d'ailleurs.
C'est un bouzouki.
C'est un bouzouki, voilà, j'aurais dû m'en douter.
Un instrument qui vient de Grèce. Oui, et puis il y a une petite trompette là-bas, mais enfin c'est au sol dans un coin et les partitions sont là, mais bien enfermées dans des placards. Les musiciens, ou les photos de musiciens sont cantonnées aux toilettes, les pauvres. Et il y a entre autres cette photo qui me vient de mon grand-père, c'est une photo Harcourt, vous voyez. C'est l'orchestre Colonne dans les années 40, sur la scène du théâtre du Châtelet. Tout le monde pose pour cet objectif. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'il y a cet énorme micro tout en haut de la scène, et je pense que c'est pour une retransmission radiophonique. Et puis, vous ne voyez pas, mais j'ai découvert ça un jour parce que c'est gravé dans la photo en bas, mais l'encre est partie. C'est marqué à mon cher Charles Auvergne, c'est signé Paul Paré, le chef d'orchestre de l'orchestre Colonne à l'époque. Il tourne le dos à l'objectif, alors qu'aujourd'hui, un chef d'orchestre de cette envergure regarderait majestueusement l'objectif. Ça veut tout dire, hein. Il était là pour servir la musique et pas là pour se montrer. Tous les musiciens le regardent. Ils ont tous l'œil fixé vers le chef d'orchestre et sa baguette, même s'il ne dirige pas. Il pose, mais il ne regarde pas l'objectif. Un seul musicien regarde l'objectif, c'est le petit violoniste qui est au dernier rang, là à droite, vous le voyez. Oui. Et il a la tête un peu plus blanche que les autres, peut-être parce qu'il tourne sa tête, c'est comme une sorte d'aura sur son visage. Un petit ange comme ça, qui regarde, qui me regarde. Et cet homme-là, c'est mon grand-père, qui s'appelait Charles Auvergne, qui était donc violoniste. Et j'aime cette photo parce que, avant de se retrouver dans les toilettes, elle était sur ma table de nuit. Et chaque soir, quand j'étais à Paris, je m'endormais et je le regardais. J'avais l'impression qu'il me disait « bonne nuit ».
Vous l'avez connu, ce grand-père ?
Je l'ai très bien connu.
Oui.
Il était violoniste, alors comme tout violoniste vieillissant, à la fin de sa vie, c'était assez horrible ce qu'il faisait. Mais il continuait à faire ses exercices, ses gammes, tous les jours. Je l'entendais en vacances, quand on partait en vacances avec mes grands-parents. Et les gammes d'un vieux violoniste, c'est assez insupportable. Mais il était là, il continuait coûte que coûte, et il m'avait dit que le jour où il arrêterait le violon, il mourrait. Il y a toujours cette peur de l'arrêt chez nous. Et lui, quand il s'est arrêté, et de travailler son violon, il est mort 5 jours après, 10 jours après. Voilà, alors je suis de ce sang-là, d'un violoniste qui jouait Berlioz, Beethoven, Schumann le soir au théâtre du Châtelet, et qui, quand il sortait du théâtre, allait rejoindre les brasseries, les bals populaires, pour jouer de la musique populaire. Il a accompagné Ray Ventura dans des disques de chansons, il accompagnait bien plus jeune, des films muets. C'est là qu'il a rencontré ma grand-mère qui était au premier rang et qui regardait le petit violoniste dans la fosse d'orchestre en rigolant. Et c'est peut-être de ce sang-là que me vient aussi l'éclectisme de mon répertoire.
C'était le père de votre mère ou de votre...
De ma mère.
Le père de votre... Et votre mère, elle aussi, a eu une carrière artistique.
Dans un autre... Alors dans elle, un autre... trépignait, il voulait la mettre au violon, mais elle trépignait d'impatience de faire de la danse classique. Et un jour, elle lui a dit, bon, écoute... Enfin, mes deux grands-parents lui ont dit, bon, on en a marre, on te met, mais au meilleur cours de danse de Paris, et là, tu vas... Ils étaient persuadés qu'au bout de 6 mois, elle en aurait marre. Et non, elle est devenue danseuse à l'Opéra, ensuite au Théâtre du Châtelet, comme quoi le Châtelet est présent dans l'histoire familiale, et ensuite professeur de danse classique.
Vous avez entendu la musique déjà, vous, enfin, il y a donc ce grand-père, mais dans le ventre de votre mère déjà, ces cours de danse accompagnés peut-être par le piano, et ce piano qui était présent peut-être déjà tout petit.
À travers le ventre de ma mère. Une vieille pianiste, toujours la même, qui s'appelait Mireille, qui accompagnait les cours de danse, qui jouait de manière assez raide. Elle avait des cheveux blancs, elle était âgée, des cheveux blancs frisés. C'était une femme adorable. J'en ai des souvenirs lointains, évidemment, mais elle m'aimait bien. Elle me faisait des petits arrangements très faciles quand j'ai commencé à apprendre le piano, des arrangements de valses de Schubert ou de pièces comme ça qui n'étaient pas de mon niveau, mais en me facilitant la tâche, elle écrivait sur un papier avec des grosses portées, des grosses notes, des arrangements très faciles pour moi. Et mine de rien... C'est à travers ses doigts raides et donc à travers les cours de danse de ma mère que j'entendais au loin que j'ai eu accès à mes premiers Schubert, mes premiers Chopin, mes premiers Beethoven.
Je me demandais quand on a une mère danseuse, quand on est pianiste ou quand on est même instrumentiste, il y a un rapport au corps qui est compliqué. Il y a toujours un rapport avec cet instrument. Il faut avoir une position, pas une mauvaise position. Sinon, on a mal, on a des tendinites, ça va pas. Est-ce que le fait d'avoir une mère danseuse a peut-être pu vous faciliter avec le corps, savoir comment positionner ce corps ou absolument pas?
Plus que ça. Faire de la danse, alors c'était compliqué parce que mon professeur, c'était ma mère. Donc il a fallu à un moment que je rompe ce lien-là.
Vous avez pris des cours de danse quand même?
Oui, j'ai pris des cours de danse.
Ah, d'accord.
Ouais. Mais j'aimais ça, sans être doué. Mais j'aimais ça, au fond, j'aimais la scène. Et mes parents, parce qu'on va peut-être parler de mon père, mais mon père était chanteur. Mes deux parents m'ont apporté ça, ce désir fou de la scène, parce que je faisais de la danse, de la figuration sur scène dans les spectacles que mes parents montaient. Mon père était aussi metteur en scène, ma mère chorégraphe, dans des théâtres du nord de la France. Et c'est ça que j'aimais. Avant la musique, avant la danse, c'était être sur scène sous les projecteurs. C'est pas faire l'intéressant et être admiré. Ça va beaucoup plus loin que ça, c'est vivre l'expérience de la scène, c'est un vertige qui ne nous quitte plus. C'était là, voilà, ça s'est imprimé là et c'était pour la vie. Et je ne me vois pas vivre, je me vois vivre sans piano, mais je ne me vois pas vivre sans la scène. Et donc, la danse m'a apporté, d'une part, le désir de la scène, un rapport au corps, un dialogue avec mon corps très tôt, donc dès l'âge de 5 ans, comprendre mon corps, comment il fonctionne, comment il respire. Ça m'a appris la respiration. Parce qu'à mon époque, au conservatoire de Paris, personne ne m'a parlé de respiration, alors que c'est la chose essentielle quand on veut devenir musicien. Et la danse m'a appris à respirer. La danse m'a appris à délier mon corps, à le laisser reposer aussi. Savoir qu'après 2 heures de cours de danse, il faut bien se reposer, avoir des courbatures.
votre père, donc vous l'avez dit, t'es metteur en scène ?
Oui, t'es chanteur.
T'es chanteur. Et on lit plein de choses en fait différentes sur les métiers de votre père. On a l'impression qu'il a eu beaucoup de métiers.
Oui, il a été ébéniste, il a été. Je ne sais pas s'il m'a parlé de tous ses métiers, mais étant jeune, puisqu'il était dans le sud de la France, vers Tarbes, il a aussi vendu des produits d'épicerie dans un petit train qui traversait les Pyrénées pour aller vendre des choses dans des petits villages sans accès. Donc, il a eu vraiment beaucoup de métiers. L'ébénisterie me touche parce que très jeune, il m'a construit un petit chevalet parce que je faisais de la peinture étant enfant. Ensuite, des étagères pour mes disques. Symboliquement, c'est fort. Il a construit vraiment. J'avais des parents qui construisaient. Quand on a déménagé de la rue Bergère à la rue de Montyon, donc dans le 9e arrondissement, je devais avoir une dizaine d'années. On est arrivé dans un appartement assez pourri et il a fallu tout refaire. Donc j'ai vu mes parents, ma mère peindre, mon père faire des meubles, remplacer les moquettes, les planchers, faire des faux plafonds. Et voilà, c'était un couple qui construisait avec ses propres mains.
Et vous-même ? Pas facile quand on est pianiste, j'imagine.
Il s'est aidé. Alors à l'époque, j'étais pas pianiste. À l'époque, je me rêvais compositeur et chef d'orchestre. C'est vraiment les métiers vers lesquels je me destinais. Juste avant, c'était la prestidigitation.
Oui, j'allais vous dire, il y a deux métiers avec des baguettes.
Ouais.
Chef et magicien, quelque part.
Le métier de pianiste est aussi un métier de prestidigitateur. Je ne fais pas des liens grossiers, mais dans le travail, le travail des doigts. Hein. Vous regardez un prestidigitateur travailler au quotidien, il travaille avec des pièces de monnaie ou des crayons avec ses doigts, comme ça. Il fait ses gammes.
Est-il vrai que vous dirigiez Wagner à 3 ans sur votre canapé devant votre platine vinyle, Alexandre Tarot ?
Oui, et je n'avais pas le droit de toucher à ces objets gigantesques, qui me paraissaient gigantesques, parce que quand on est haut comme 3 pommes, cette platine, qui était aussi plus haute que moi, alors qu'elle ne devait faire que 50 ou 60 centimètres.
Qu'est-ce qui tournait sur cette platine vinyle ? Qu'est-ce que vous entendiez, enfant ?
Alors, Wagner. Et j'étais fou des maîtres chanteurs. Et c'est vrai que je voulais être chef d'orchestre, donc j'avais 3 ans. Hein, et mon père me mettait ce maître chanteur et je restais là des heures sur mon canapé à bouger les bras en tous sens. J'aimais... c'est lointain. Donc ouais, je voulais être chef d'orchestre et la musique de Wagner me plaisait. Peut-être les cors, les trombones, les musiciens, les instruments en cuivre. Et toujours maintenant, je pense que le corps est l'instrument qui me touche le plus dans les instruments qu'on trouve dans un orchestre symphonique. Et puis cette musique tonitruante, violente, mais qui m'apaisait en même temps. Et c'est ça Wagner, en fond. C'est une musique... l'une des magies de Wagner, c'est de nous apaiser dans une certaine violence. Parfois même une noirceur. Voilà, j'étais déjà attiré par Wagner à 3 ans.
À quel âge est arrivé le piano ? Pourquoi le piano ? Pourquoi vous n'êtes pas allé vers le cor ? Parce qu'il y avait un piano chez vous. Vous auriez pu faire un instrument avant, un cuivre ? Ouais. Parce que c'est ce qui vous fascinait déjà petit.
Alors en même temps, je me souviens avoir voulu faire de la flûte. Et je sais qu'on... Non, justement, il fallait encore attendre quelques années.
Ah.
C'était dangereux pour la colonne vertébrale, je crois, me souvenir. Et puis le piano était là, on m'a pas posé de questions, on m'a mis au piano comme ma sœur, et j'ai commencé le piano. Peut-être a-t-il été, dès les premiers instants, mon meilleur ami. Et puis nous aussi, on ne s'est pas posé de questions, on s'est parlé tout de suite, et voilà, comme les meilleurs amis du monde, c'est pour la vie, et puis on n'y réfléchit pas.
Et vous dites que vous étiez paresseux.
J'étais très très paresseux, je n'aimais pas travailler. Et aujourd'hui, c'est tout à fait l'opposé. Je suis devenu vraiment un travailleur acharné. Mais jusqu'aux années de conservatoire, j'étais très paresseux. J'avais même inventé mon professeur, mais on va peut-être en parler, Carmen Tacon de Venat, qui était un être d'exception. Entre autres parce qu'elle m'avait donné un exercice fabuleux qui s'appelait le muet. Le muet consiste à enfoncer, donc jouer très lentement, mais sans appuyer sur la corde. C'est-à-dire enfoncer de manière muette, donc au ralenti, la touche. Ensuite, enfoncer la deuxième du trait qu'on doit travailler. Et dans un troisième temps, lever la première touche. Vous voyez, première touche, appuyer, ensuite appuyer sur la deuxième touche et désenfoncer la première touche, et ainsi de suite.
Et sans jamais que le marteau ne
voilà.
tape la corde.
Donc ça ne fait pas de bruit. Et c'était merveilleux parce que quand ma mère criait à l'autre bout de l'appartement « Alexandre, travaille ton piano », je lui disais « Mais je travaille, je fais du muet ». C'était une invention merveilleuse qui m'a sauvé de bien des ennuis.
Parlez-nous de votre professeur, alors, que vous venez d'évoquer. C'était au conservatoire du 14e, c'est ça?
Oui, c'était Carmen Tacon de Venat, qui est décédée il y a 2 ans, enfin qui est décédée sans être décédée, parce que je pense qu'un professeur ne meurt pas et vit à travers les doigts de ses élèves. Et elle est toujours présente, puisque j'y pense très souvent. Je ne sais pas faire mes deuils, de toute manière. Donc, tous mes morts sont avec moi et vivent, pas au quotidien, mais sont là, quoi. Quand je joue, quand je donne un concert devant vous, ils sont là avec moi, sur scène, dans mon piano, sous mes doigts, dans mon corps. Et Carmen Tacon de Venat, elle est là, elle aussi. Donc, elle n'est pas morte. Et, je pense que le premier cours avec elle, je devais avoir 5 ans. C'était au 107 rue Raymond Losserand, dans le 14e arrondissement, au premier étage. Il y a toujours une plaque, professeur de piano, élève de Marguerite Long, quelque chose comme ça. C'était en effet une élève de Marguerite Long. Et elle était très douce, c'était une femme très très douce, avec, je ressens encore la texture de l'intérieur de sa paume, hein, quand elle a pris pour la première fois ma main, comme quoi hein, des souvenirs très lointains peuvent être encore très très vifs, des souvenirs tactiles. Et là, en évoquant Carmen Tacon, j'ai ce souvenir de sa main, en fait, prenant mon poignet et l'avançant vers l'ivoire, et l'avançant vers, au fond, vers ma vie. Donc Carmen Tacon de Venat, c'était ma seconde mère.
Elle vous invitait d'ailleurs, vous partiez en vacances avec elle, vous étiez vraiment très proche, vous l'avez vue tout au long de sa vie.
Oui, jusqu'aux derniers instants. Oui, elle donnait tout. On rencontre des professeurs de piano, des professeurs tout court, mais j'ai l'impression que les professeurs de piano sont particuliers. On croise régulièrement des professeurs de piano, surtout des femmes, je ne sais pas pourquoi, qui sont prêts à tout pour leurs élèves, mais qui donnent tout. Madame Tacon, si un élève était malade, elle n'endormait pas de la nuit. Par contre, si un élève avançait, elle était heureuse et elle faisait tout. Et je pense qu'elle a compris que j'avais des dons pour le piano, mais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Enfin, elle était... Bon, voilà, elle sentait qu'il y avait un chemin possible et qu'elle était là pour débroussailler, pour ouvrir ce chemin le mieux possible. Et donc, elle m'a emmené avec ma sœur à Carnac pour se baigner dans l'eau de mer. Avant l'entrée au conservatoire, il fallait aller au château de Versailles, galoper dans le parc. Et je crois que je n'aimais pas trop ça, mais c'était, ça m'a fait beaucoup de bien. Parce que quelques jours avant le concours d'entrée au conservatoire, aller galoper 5 heures dans la forêt du château de Versailles, je peux vous dire que c'est mieux qu'un cours de piano.
Thank you.
Moment musical Deutsche 780 de Schubert par Alexandre Tarot que l'on retrouve demain pour la suite de ce grand entretien à 13h sur France Musique et toute la programmation de cette émission sur francemusique.fr. Merci à Gilles Blanchard qui a réalisé cette émission. Merci à Cédric Chatelus, Georges Thau et Céline Tronouvelle.
À réécouter sur francemusique.fr.